Appartient-il aux experts de décider de nos vies avec Frédéric Jacquemart?
Bonjour. Annick Bossu, faucheuse volontaire. Donc, comme vous le voyez, peut-être pas dans cette salle, cette conférence est organisée par les faucheurs volontaires. Car les faucheurs volontaires existent toujours, figurez-vous. Ils continuent à faucher dans les champs, enfin dans des parcelles d'essai qui appartiennent à des grosses boîtes en général, de semences. Et du coup, ils sont toujours présents sur le terrain, mais en ce moment, ils se soucient aussi beaucoup des nouvelles biotechnologies qui, pour le moment, à notre connaissance, en Europe, ne sont pas encore sorties de la sphère des labos. Ils ne sont pas encore dans les champs, mais nous nous préoccupons du devenir de ces biotechnologies. Car quand les produits de ces biotechnologies vont sortir, elles vont impacter tout le vivant, c'est-à-dire l'agriculture, c'est-à-dire la nature et bien sûr nos vies. Voilà notre souci. Alors quand on a lu un article du journal d'InfoGM qui s'intitulait « Bidouillage génétique jusqu'à quel point de rupture ?» ou quelque chose dans ce genre, on a été alerté, ça nous a allé droit au cœur, et il se trouve que c'est Frédéric Jacquemart qui avait signé cet article. Donc, comme tous les ans, vous le savez, les faucheurs organisent une conférence à Primevert. Donc là, on a fait appel à Frédéric, et c'est le titre de la conférence. La conférence en elle-même a un petit peu évolué au cours du temps, et c'est devenu, donc, appartient-il aux experts de décider de nos vies, car c'est évidemment un point extrêmement crucial. Frédéric, vous le connaissez peut-être, certains le connaissent déjà. Frédéric est donc biologiste, docteur en médecine et sciences, et il a fait partie de tous les comités successifs d'évaluation des OGM en France. Voilà, et c'est quelque chose, je crois, auquel il tient à ce qu'on le dise. Voilà, donc je vous laisse en présence de Frédéric. On va découvrir ensemble le contenu de cette conférence.
Ben merci d'être venus presque nombreux, malgré l'heure du repas. Et merci aux faucheurs de leur invitation. Alors, effectivement, le titre est important parce que on est vraiment à une étape assez cruciale de notre possibilité d'action démocratique, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Depuis, il vient d'être dit, j'ai participé à tous les comités d'expertise des OGM. En France, je correspond également avec l'Union européenne. Et donc, j'ai vraiment vécu toute l'histoire du débat sur les biotechnologies. Et ce qui m'a toujours frappé, c'est que le débat était totalement faussé et qu'il l'a été de plus en plus au fur et à mesure du déroulement de l'histoire, puisque tout le débat s'inscrit dans les termes imposés par l'industrie, au point qu'on en est à être obligé, si on conteste quelque chose, de le faire en termes de biologie moléculaire, alors que je pense qu'aucun faucheur ne fauche un OGM parce qu'il y a un ADN qui est mal tricoté et que la plupart du temps, il ne sait même pas ce que c'est que la modification génétique au plan moléculaire. Ce n'est pas ça qui l'intéresse, ce qui veut dire, et c'est vraiment l'essence du message, que nous devons reprendre la parole pour parler de ce qui nous intéresse et pas de ce qui nous est imposé par les experts. Imposé par les experts et repris par les politiques. Je me souviens de l'EDO en plein débat sur le Mont 810 dire « Je ne veux entendre que des arguments scientifiques ». Il confondait d'ailleurs arguments scientifiques et arguments d'experts. Ce n'est pas pareil, un expert peut être scientifique, mais il n'agit pas en tant que scientifique, il agit en tant qu'expert, ce qui est différent, puisque le rôle de l'expert est d'aller au-delà de la portée stricte des données, alors que le scientifique doit s'y cantonner. C'est un détail qui a son importance. Donc, comme il y a plusieurs niveaux de frustration démocratique, eh bien, on va essayer de les prendre parce qu'ils ont une logique, et on va essayer de les prendre en partant justement de l'aspect technique, de l'évaluation, pour aller jusque à ce qui pourrait nous concerner d'une façon beaucoup plus profonde. Alors, les sujets qu'on aborde ici, c'est les biotechnologies, et notamment les OGM, qui sont un exemple. Je prends cet exemple-là parce que c'est celui sur lequel je suis particulièrement impliqué, mais il faut bien comprendre que cette problématique-là, de cette privation démocratique par l'imposition de termes qui ne sont pas les nôtres, concerne la totalité des nouvelles techniques, qu'il s'agisse des pesticides ou autres produits chimiques, des nanoparticules, de l'informatique, et puis de ce qui transcende tout ça, parce qu'encore une fois, il y a des catégories qui nous sont imposées et qui ne correspondent pas forcément, qui n'ont pas valeur universelle. Et notamment, il y a les technologies convergentes, nano, bio, informatique et sciences cognitives, et puis leur suite logique, le transhumanisme, est déjà quelque chose qui est un petit peu paradoxal, puisque les mêmes personnes qui nous imposent des catégories distinctes disent eux-mêmes que ces catégories sont obsolètes, puisque la convergence de ces technologies transcende ces catégories. Donc vous voyez, il y a une incohérence du discours qui est également importante à prendre en compte. Alors, pour aborder les questions dont on parle là, qui sont assez complexes, déjà, je vais être un peu long, je suis désolé, il faut un fil d'Ariane, sous la forme d'un exemple concret, et on va d'abord voir comment se présente aujourd'hui la problématique des nouveaux OGM, parce que c'est vraiment quelque chose de particulier et qui se passe en ce moment, et qui est assez exemplaire de la manière dont les experts sont utilisés, justement, pour confisquer la démocratie. Alors, si on reprend l'histoire des OGM, lorsque Monsanto a voulu lancer ses premières plantes OGM, il s'est dit, ça ne va jamais passer dans l'opinion publique, on va aller bidouiller le vivant, tout ça, c'est quand même... Et donc, c'est très bien raconté dans le bouquin de Marie-Monique Robin, Le monde selon Monsanto, l'entreprise Monsanto est intervenue auprès de George Bush père, qui était alors vice-président de Reagan, pour qu'il mette en place une réglementation avec une évaluation officielle. Alors, il a demandé de la réglementation à Reagan, c'est quand même assez marrant, mais il y avait derrière cette idée donc de faciliter l'introduction dans le marché de produits qui risquaient de ne pas être bien accueillis. Il fallait donner confiance au bon peuple. Et alors, c'est ce qui a été fait. Et c'est Reagan, à la demande de Monsanto, qui a mis en place l'évaluation, la première évaluation des OGM. Mais bien entendu, il n'était pas question que cette évaluation aille entraver les intérêts de Monsanto. Et donc, c'est l'entreprise elle-même qui a fixé les règles de cette évaluation. Et ça, il faut quand même comprendre que quand on parle d'évaluation, il faut mettre des guillemets. Et... j'ai écrit ici, pour InfoGM, cette brochure sur l'expertise des OGM, dans lequel, à laquelle je vous renvoie, je ne peux pas en faire la description ici, et dans lequel, à partir de l'exemple concret, notamment du dossier du maïs Mont-810 de Monsanto, on montre que l'évaluation qui est faite n'a strictement aucune tenue sur le plan scientifique, ne serait même pas accepté par un élève de licence, il se ferait jeter parce qu'il ne respecte pas les règles élémentaires de la méthodologie scientifique. Alors, c'est quand même important, parce qu'on nous met ça, on dit non, mais les experts ont dit que, mais c'est absolument sur du sable que repose cette évaluation. Alors, l'illustration est pas mal, c'est pas de moi, donc je peux le dire, et c'est exactement ce qui se passe, c'est-à-dire que l'évaluation se place dans les conditions dans lesquelles vous ne pouvez pas voir un problème s'il existe. Ça ne veut pas dire que le problème existe, mais s'il existe, vous ne pouvez pas le voir. Et à ce moment-là, eh bien, vous concluez que, comme je ne vois rien, eh bien, il n'y a rien. Et le politique dit, dans ces conditions, on autorise. Et c'est exactement le principe. Ce n'est pas juste une image. Nous, on a montré, avec le Mont 810, et c'est décrit ça dans la revue, aucun dossier, je dis bien aucun dossier de demande d'autorisation pour les OGM qui sont évalués au niveau de l'Union européenne. Vous savez que l'évaluation n'évalue pas le produit, il évalue le dossier. Aucun de ces dossiers ne comprend un test de comparaison qui a une puissance suffisante. Alors, ça veut dire que pour voir si un OGM a un effet nocif, eh bien, on va prendre un groupe de rats qui ont mangé l'OGM, un groupe de rats qui n'a pas mangé l'OGM, et on les compare statistiquement pour voir s'il y a des différences. En statistique, le minimum exigé, c'est qu'on soit capable de, s'il y a un effet, on puisse le détecter dans 80% des cas. Ça veut quand même dire que dans 20% des cas, de toute façon, vous ne voyez rien, hein, même si ça existe. Eh bien, il n'y a aucun dossier, je dis bien aucun dossier, qui répondent à ce critère et qui atteignent les 80% de puissance statistique. Aucun dossier. Or, tous ces dossiers ont été validés par les experts nationaux et par les experts européens. C'est-à-dire, l'expert européen, c'est l'AESA ou EFSA, Autorité européenne de sécurité des aliments. Et ce qu'il y a d'amusant, c'est que comme nous, on a fait énormément de critiques sur ces tests, et puis je suis allé à la Commission européenne avec ma brochure, quand même, ça, et on a discuté avec les experts européens. Ils étaient un peu gênés, ils ont fait quand même des opinions scientifiques dans lesquelles ils nous donnent absolument raison. Mais l'opinion scientifique n'a aucune valeur réglementaire, hein. Donc, eux, ils disent oui, il faut avoir plus de 80% de risque bêta, il faut. Ils répondent absolument à toutes nos critiques, mais en même temps, ils valident des dossiers qui ne répondent absolument pas à leurs propres critères. Et j'insiste quand même, parce que c'est quand même énorme, et je pense que le public ne le sait pas, et le coup de l'expert a dit, ça commence à m'énerver un peu, parce que dans le cadre de la prise de décision sur le Mont 810, justement, Jean-Louis Borloo avait réuni un comité d'experts qu'il avait appelé CPHA, dont je faisais partie d'ailleurs. Et l'avis de ce comité au sujet du Mont 810 souligne, et je cite, souligne l'insuffisance du test à 90 jours, c'est-à-dire du test toxicologie dont je viens de parler, dont la puissance est insuffisante. C'est les experts qui le disent. En effet, c'est toujours la citation, la méthodologie utilisée sur les rats ne permet pas de conclure sur l'absence ou la présence de différences significatives entre le groupe test et témoin. Le Mont 810 est autorisé, hein. Alors, c'est quand même là-dessus que le gouvernement français a interdit en France le Mont 810, et je vous laisse le plaisir d'aller voir tous les commentaires qui ont été publiés en disant « c'est un scandale, c'est une décision infondée, etc. » Je viens de vous lire le rapport de l'expert. Alors, quand on interroge l'AESA, c'est-à-dire encore une fois l'Agence européenne d'évaluation des aliments, sur ces incohérences-là, pourquoi est-ce que d'un côté il dit quelque chose et de l'autre côté il ne l'applique pas? Et ça, nous, on l'a fait, on n'a pas eu de réponse. Mais par contre, ils ne sont pas obligés de répondre à une association, hein. Par contre, les députés européens aussi l'ont fait. Monica Frassoni, Luca Romagnoli, José Bové ont interrogé sur cette incohérence, sur les statistiques dont je viens de parler. Sandrine Bélier, reprenant cette brochure, a posé des questions en disant « Mais je lis des choses importantes quoi dans cette brochure. Est-ce que c'est vrai ?» Et je demande confirmation. Donc, la commission a passé la question à l'AESA qui devait répondre « Est-ce que c'est vrai ?» Et l'AESA a répondu totalement à côté. C'est-à-dire, en gros, on vous demande s'il fait beau, on vous répond, je prends l'autobus. Bon, d'accord, ça, c'est une réponse. Alors, j'ai saisi la médiatrice européenne de ces questions en disant c'est un déni de démocratie, on refuse de répondre à un député. Ça a duré trois ans, plus de 4 ans presque. Et ça vient de tomber, c'est classé. Parce que, voilà, on m'a répondu, on m'a dit, voilà, je prends l'autobus, c'est une réponse. Voilà. Donc, on va continuer. Mais vous voyez que là, il y a un problème très, très important aussi, déjà, de l'expression démocratique via des élus. Et la même chose est décrite au niveau des pesticides. Là, je vous recommande la lecture de ce qui a été publié par Génération Future et Pesticide Action Network, qui viennent de faire donc ce rapport sur l'expertise, qui s'appelle « L'industrie écrit ses propres règles ». Et c'est ça, c'est-à-dire que cette évaluation, elle est écrite par l'industrie elle-même à son propre usage. Alors tout ça, ça concerne, pour nous, les OGM obtenus par transgénèse. C'est les OGM classiques, on peut dire, contre lesquels beaucoup d'entre vous se sont élevés durant ces dernières années. Mais cette technologie-là, elle fait partie du passé maintenant. Et pour comprendre les enjeux actuels et le deuxième niveau de confiscation des droits démocratiques, il faut reprendre l'histoire des OGM et dire quelques mots des techniques d'aujourd'hui qui remplacent la transgénèse. C'est ce qu'on appelle l'édition de gènes. Et là, j'attire votre attention, quoi. L'édition de gènes. Quand on vous dit le biologiste, enfin un scientifique, c'est quelqu'un de tout à fait neutre, qui n'a pas d'idéologie, qui regarde la nature telle qu'elle est. Et on vous parle d'édition de gènes. Hein. Donc le biologiste écrit le grand livre de la vie. Non mais oh, c'est pas du délire ça quand même. Et alors on me dit non mais c'est moi qui exagère. Mais non, regardez, ça c'est une publication du Boston Consulting Group. En réécrivant le livre de la vie, voilà, c'est le titre qu'eux-mêmes donnent, ou ce livre-là, en réinventant la vie, on peut traduire ça « redesigning life », en réinventant la vie. C'est-à-dire qu'on est dans le délire le plus complet. Je ne parle pas de ce genre d'illustration. On vous voyait un codon qui est remplacé avec une pince Bruxelles, chirurgicalement, quand vous savez comment ça se passe en réalité. Enfin, alors, cet aspect délirant est très important. Moi, je fais une autre conférence sur les OGM cachés, sur laquelle j'insiste énormément sur toute cette partie qui touche un peu à la psychiatrie et qui est quand même le moteur de l'évolution technologique. Et ne pas prendre en compte cet aspect-là serait une très grave erreur, car c'est une composante essentielle de la dynamique scientifique et technoscientifique. Alors, cette édition de gènes, ben, c'est quoi? Je suis obligé de faire un petit rappel technique. Comment je vais faire? Ouais. Donc, vous voyez là, schématiquement, un ADN, et vous avez les deux hélices qui sont structurés par un sucre qui s'appelle le désoxyribose. Et puis dessus, vous avez greffé adénine, thymine, cytosine, guanine, qui sont des bases, et elles s'apparient. Adénine colle avec thymine, et inverse, cytosine avec guanine. Et donc, quand vous voulez répliquer l'ADN, vous le coupez en deux, vous séparez les brins. Enfin, vous, c'est une enzyme qui fait ça. Et vous allez pouvoir recopier en recopiant la séquence complémentaire. Ça, c'est le principe de base de l'ADN. Et pour faire une protéine, eh bien, l'ADN qui est dans le noyau là, vous allez en copier, vous allez faire un ARN. Là, c'est une molécule un peu différente, mais qui est très proche, qui va être complémentaire du brin d'ADN copié et qui va dicter l'ordre d'enchaînement des acides aminés qui font la protéine. parce que tout le monde a compris, je suis hyper simple, je pense que c'est du niveau scolaire. Alors en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, mais peu importe. Ça veut dire que si on change la séquence de l'ADN, on va changer la protéine, quand c'est un gène codant. Et c'est exactement le but des manipulations génétiques. Alors c'est ce qu'on appelle généralement une mutation. Une mutation, c'est une modification. On réserve le terme quand même aux modifications de une ou quelques lettres de la séquence d'ADN, mais pas des grosses modifications. Donc à partir déjà fin des années 1920, on avait compris qu'on pouvait changer, on ne savait pas très bien quoi, mais on savait qu'on pouvait modifier les protéines en faisant l'irradiation. Mais après, il y a eu la guerre. À ce moment-là, il y a eu un essor fantastique des sciences qui étaient issues de la guerre, c'est-à-dire la chimie et le nucléaire. Et puis, il y a eu cet engouement pour la technique, puisque cette technique nous avait permis de griller des tas de Japonais d'un seul coup. On était extrêmement puissants et forts. Et ça imprègne, là aussi, l'inconscient collectif. Il faut toujours comprendre que derrière tout ce qu'on fait, il y a de la psychologie, voire de la psychiatrie. Et à partir de 1950, là, on commence à utiliser des produits chimiques ou des radiations pour provoquer des mutations, et notamment pour obtenir des nouvelles variétés de plantes. Voilà, ça c'est une photo de 1960, où vous voyez derrière cet étal de petits sachets de graines, un panneau avec marqué dessus « Atom Blasted Seeds », c'est-à-dire vraiment des graines blasted, c'est plus qu'irradié, c'est vraiment éclaté quoi, par ce qui est derrière, qui est un nuage atomique. Vous voyez que je plaisante pas quand je dis que il y a cet aspect associé à ces mutants du nucléaire utilisé par contre les Japonais. Alors, en fait, c'était pas vraiment une bombe atomique qu'on utilisait pour faire ces semences, mais des champs d'irradiation. On a au centre une bombe au cobalt. La bombe n'éclate pas, une bombe au cobalt, ça éclate pas. C'est une source d'irradiation qui est donc au centre. Et puis, on fait des plantations autour pour récupérer des plantes mutées. Et vous avez donc à gauche le Oak Ridge Atom Industry, la photo date de 60, et à droite de l'époque moderne de Ibaraki au Japon. Et je trouve que voilà, le fait que ce soit au Japon a un certain sens, quoi. Donc là, dans ce cas-là, on provoque des mutations complètement au hasard. Vous ne savez pas du tout ce que vous faites. Puis vous regardez s'il y a quelque chose qui apparaît qui vous intéresse. Par exemple, le truc a changé de couleur, c'est intéressant, ou n'importe quel. Bon, mais vous ne savez pas. Ça, c'est très important de comprendre. Et là, par exemple, vous avez des trucs qui mutent assez facilement, c'est des chrysanthèmes. Vous voyez, vous avez tout ça, c'est des différentes chrysanthèmes qui ont été mutées avec une source au cobalt. En 1983, on arrive à la transgénèse. Et là, il y a un changement très important parce qu'on choisit le caractère qu'on veut introduire. C'est-à-dire qu'on identifie le gène qui est à l'origine de la protéine que l'on cherche à faire exprimer, et puis on essaye de l'introduire. Alors je dis bien on essaye, parce que là aussi, la chirurgie qu'on nous a décrit, ça ressemble plus aux frappes en Irak que quelque chose de chirurgical, mais on passe là-dessus. Et donc on va introduire toute une partie de ce qu'on appelle un gène, on va l'introduire dans une autre cellule. Et là, en 2001, suite à pas mal de problèmes, notamment les problèmes de la vache folle, l'Union européenne se décide à réglementer la dissémination des OGM en milieu ouvert. Et à l'époque, c'est des plantes, hein, les animaux sont venus après. Et donc, on réglemente leur culture, leur mise sur le marché. Et il y a une directive qui est pendue, et cette directive est très importante. Elle dit « Un OGM est un organisme, à l'exception des êtres humains, dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne s'effectue pas naturellement, par multiplication et ou recombinaison naturelle. » Et donc ça, c'est une définition très importante et qui est excellente, parce qu'elle met en place dans la définition l'intentionnalité de l'être humain dans la modification qu'il provoque. Et puis, ben, on a vu tout à l'heure, il y avait quand même des OGM qui existaient, puisque les mutants dont je viens de parler sont bien des OGM, c'est bien une modification génétique volontaire, mais on revient difficilement sur le passé, et donc on fait une exception, et qui dit « la présente directive ne s'applique pas aux organismes obtenus par les techniques de modification génétique que sont la mutagénèse et la fusion cellulaire. » Et ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce qu'on va voir, je vous le dis tout de suite, on va voir que les nouveaux produits obtenus par des techniques qui n'ont vraiment plus rien à voir avec celles qu'on vient de décrire, on va essayer, enfin on, c'est l'industrie, on va essayer de les faire passer dans cette exception-là en disant, mais c'est comme les mutations antérieures. Et à ce moment-là, on n'a plus de réglementation, chouette. Donc, les plantes obtenues par mutagénèse avec mutants chimiques ou des irradiations, ce sont bien des OGM. Ils sont exclus de la réglementation, ils ne sont pas évalués, pas étiquetés, pas tracés. Et c'est ce que la Confédération paysanne a appelé les OGM cachés, parce que ce sont des OGM, mais ils n'apparaissent pas, vous ne les voyez pas, ils ne sont pas étiquetés, etc. Il faut bien comprendre qu'un OGM transgénique, il est étiqueté en Europe, et si vous les mettez sur les rayons, ben simplement, il ne se vend pas. Ça a été fait. Il y en a eu du rayon de supermarché. Les supermarchés les ont retirés parce qu'ils ne les vendaient pas. Et donc, pour l'industrie, c'est très important de ne plus être soumis à la directive européenne 2018 qui implique cet étiquetage. Les seuls OGM qui se vendent réellement en Europe, c'est pour les animaux. Et puis la restauration collective. Ouais, ça. Alors, oui, donc l'idée, c'est de dire, ben, le public ne veut pas quelque chose, eh bien, on va lui faire bouffer quand même, même s'il n'en veut pas, il faut trouver un moyen, quoi. Et c'est pour ça que, eh bien, on a maintenant une nouvelle vague de mutations qui est quand même techniquement différente parce que c'est fait in vitro, avec des moyens de sélection qui n'ont plus rien à voir, et avec lesquels on essaye d'obtenir des plantes qui sont tolérantes aux herbicides, notamment le colza, le tournesol. Et à ce moment-là, ça permet d'arroser les champs levés avec l'herbicide, détruire les mauvaises herbes, et puis de vendre un produit qui n'est pas étiqueté. Et c'est pour ça que les faucheurs ont fauché maintenant un certain nombre de ces OGM cachés. Ce n'est pas n'importe quel mutant, ce sont des mutants tolérants aux herbicides. Parce que quand vous avez une plante qui est tolérante aux herbicides, la plante contient l'herbicide ou ses métabolites, et qui donc ont leur toxicité. Et puis d'autre part, il faut se rendre compte que vous avez en France 9%, enfin disons 3 millions d'hectares de maïs plantés, 2 millions d'hectares d'oléagineux, ça c'est des plantes qui peuvent être rendues tolérantes aux herbicides, et ça veut dire que sur une surface comme ça, c'est-à-dire plus de 5 millions d'hectares, eh bien vous n'aurez plus aucune plante hôte dans les champs pour les insectes. Vous supprimez une surface absolument énorme pour les insectes qui sont vraiment la base de la hiérarchie trophique. Et ça a un effet qui est absolument considérable. C'est vrai qu'il y a une certaine compétition entre les, entre guillemets, mauvaises herbes et l'herbe cultivée, et que donc l'agriculture essaye de diminuer cet impact. Mais entre diminuer l'impact et supprimer complètement les adventices, eh bien, il y a un pas. Le pas est qui est franchi maintenant et qui ne peut pas être sans conséquences. Donc, voilà, arrivent ces nouveaux OGM cachés et puis l'édition de gènes dont on a parlé tout à l'heure. Alors, sur l'édition de gènes, on a vu l'ADN tout à l'heure. Il faut couper les deux brins d'OGM, d'ADN. Si vous coupez un seul brin, vous avez des enzymes de réparation qui vont recopier à partir, bon, si c'est thymine, hein, vous avez compris, vous avez le complémentaire va être remis et c'est réparé. Ça arrive constamment dans vos cellules, vous coupez constamment de l'ADN. Chaque fois que vous avez une traduction, vous allez couper de l'ADN. Et ça se répare. Alors là, il s'agit de couper les deux brins. Et là, l'enzyme, elle n'a plus le moule. C'est plus quoi faire. Donc elle remet n'importe quoi. Ou bien... Alors CRISPR, oui, ça veut dire ça, mais... Groupement d'éléments palindromiques courts, répétés, régulièrement espacés. Et Cas, c'est la protéine qui est associée à CRISPR. On va voir ça un peu plus loin. Vous voyez là, sur cette image, vous avez la protéine Cas qui est en orange, une grosse protéine qui est capable de couper les deux brins d'ADN. Et puis, vous avez... Alors, je vais me déplacer là quand même. On est obligé de faire un tout petit peu de technique. Donc là, vous avez la partie palindromique qui colle sur la protéine. Et puis, la partie complémentaire de l'ARN avec l'ADN que vous ciblez va amener la protéine à l'endroit voulu. Et donc, vous allez pouvoir couper à l'endroit que vous voulez. Ce qui est tout à fait nouveau, alors que la transgénèse, c'est pas n'importe où, mais c'est pas contrôlé. Vous savez pas où ça va s'insérer. Là, vous allez pouvoir couper à l'endroit voulu. Et donc, soit vous laissez faire une erreur, soit... Vous mettez, comme ici sur cette représentation, un morceau d'ADN dont les extrémités sont complémentaires avec l'ADN qui a été coupé. À ce moment-là, il va se coller dessus, vous voyez ? Il va se coller sur les extrémités de chaque côté de ce qui a été coupé. Et puis l'enzyme de réparation va recopier et faire le deuxième brin. Donc vous allez pouvoir insérer ce que vous voulez à l'endroit où vous avez coupé. Vous voyez bien qu'on est parti de mutations où vous ne savez pas du tout ce que vous faites, puis vous regardez si quelque chose vous intéresse, à quelque chose où vous pouvez mettre un caractère que vous voulez, mais vous ne savez pas où. Et là, maintenant, la possibilité de mettre le caractère que vous voulez à un endroit précis du génome. Alors, en fait, il y a beaucoup de mutations hors cible, hein. C'est-à-dire que vous faites là, vous faites une transformation, mais vous avez des transformations ailleurs sur l'ADN aussi. Bon, je ne peux pas rentrer dans les détails, vous avez toute la littérature qui existe là-dessus. L'important, c'est que ça permet de transformer tous les animaux, ça permet de transformer des bactéries, des levures, ça permet de transformer toutes les plantes qu'on peut régénérer à partir d'une culture de cellules in vitro. C'est la seule réserve qu'il peut y avoir si vous pouvez... pas faire une culture in vitro, à ce moment-là, vous ne pouvez pas faire la technique. Mais ce qui est très important, c'est que c'est une technique qui est facile à mettre en œuvre. Vous pouvez, un étudiant en deuxième année de biologie, est capable de la mettre en œuvre. Et très bon marché. CRISPR, c'est de l'ARN. L'ARN, ça se synthétise à la demande. Vous avez un clavier, vous tapez la séquence et vous avez une machine qui vous synthétise votre ARN. Et tout ça, c'est pas cher. Voilà, vous pouvez commander sur Internet. Vous voyez ici, par exemple, vous pouvez commander votre séquence pour faire votre petit CRISPR-Cas9 chez vous. Ça coûte une centaine de dollars. On est très loin des millions d'euros pour faire une transgenèse. C'est quelques centaines de dollars. Vous pouvez même acheter sur Internet un kit pour faire chez vous votre OGM. Vous voyez, ça coûte 140 dollars, et puis vous fabriquez votre petite OGM dans votre cuisine. Donc c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que ces techniques-là, permettent un changement d'échelle radical. On n'a plus du tout la même, plus du tout la même problématique. Et surtout que parallèlement à ça, se développent des techniques connexes à faible coût, notamment le séquençage haut débit. Avant, c'est un séquençage, ça coûtait des fortunes et ça prenait des années, au moins une. Et maintenant, ça se fait d'une façon très rapide. Là aussi, vous voyez, vous pouvez acheter un diagnostic sur Internet pour 80 euros. Ça, c'est pas exactement un séquençage, hein, mais presque. Et puis, mais si vous voulez séquencer votre propre génome, il n'y a pas de problème. Vous n'en avez pas pour des fortunes. Et il faut quand même comprendre ce que veut dire cette accélération et amplification de ces changements qui, en eux-mêmes, posent problème. On n'est pas à, c'est plus tel ou tel OGM qui pose un problème, c'est l'accélération fantastique de cette technologie. Est-ce que des systèmes comme la société ou la nature sont capables d'encaisser des changements aussi rapides? Un système, il a un rythme évolutif, on peut le modifier, tout ça. Bon, les systèmes, c'est très costaud, c'est très résilient, mais il y a une limite. Et là, on est vraiment dans une quantité à la minute de changements qui pose problème en elle-même. Et vous voyez que déjà, ça, c'est une question qui n'est pas posée au niveau de l'évaluation et qui n'est même pas pertinente parce que, encore une fois, moi, j'ai été vice-président du Haut Conseil des biotechnologies. C'est quelque chose qu'on a essayé d'introduire avec les amis qui siégeaient également. Et ça n'est jamais été considéré comme quelque chose de pertinent. En plus de, ce, de ces changements au niveau de, des biotechnologies elles-mêmes, vous avez tous les autres changements connexes, notamment de l'informatique, qui permettent une, un gain de puissance qui est considérable. Tout ça, encore une fois, on a des catégories qui convergent et qui transforment totalement le paysage des biotechnologies, alors que le paysage de l'évaluation, lui, reste absolument figé. L'industrie, là-dedans, elle veut deux choses maintenant. Elle a vraiment entre les mains une technique formidable qui va lui permettre de faire 36 000 choses. Elle ne veut pas être embêtée. Elle ne veut pas faire d'évaluation. Une évaluation, même si elle est bidon, ça coûte cher. Et surtout, elle ne veut pas être étiquetée. Et donc, et puis aussi, et c'est important, éliminer la société civile du débat à Syrie. Et il faut comprendre que là, on a un enjeu immédiat qui est d'importance. C'est que non seulement on n'arrive pas à parler de ce qui nous intéresse, mais en plus, on va être complètement exclu de tout le débat. Alors sur le point 1, ben il est clair que tous les produits issus des nouvelles technologies ne peuvent pas être complètement exclus de la réglementation. Hein. Si vous introduisez un gène complet, bon, ça restera étiqueté OGM. Par contre, ce qui les intéresse, c'est toutes les modifications pour lesquelles l'ADN introduit ne reste pas et puis pour lesquelles on a une petite séquence qui a été changée. Et à ce moment-là, eh bien, on reprend l'exception de la 2001-18 et dire, mais ce qu'on fait avec CRISPR-Cas9 ou autre technique d'édition de gènes, hein, parce qu'il y en a plein, eh bien, c'est équivalent à ce qu'on faisait en 1950, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, pas de réglementation. Et pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, évidemment, on nomme un comité d'experts qui va trancher d'une façon tout à fait neutre, bien entendu. Et ça a été fait. Et donc, un des premiers, c'est pas tout à fait le premier, mais c'est un des premiers, c'est un groupe de travail qui a été constitué par la Commission européenne. La Commission européenne leur a dit, mais alors, est-ce que voilà, les nouveaux produits des biotechnologies, ça rentre dans cette exception ou pas? Et alors, vraiment surprise, la réponse, bah oui, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'ils disent, si on regarde la séquence d'un ADN modifié, vous avez modifié un ADN avec CRISPR-Cas9, par exemple, on regarde la séquence, vous ne pouvez pas savoir si la modification a été produite par l'édition de gènes, par la mutagénèse classique ou par une mutation naturelle. Moléculairement, c'est pareil. Donc, c'est pareil. Génial. Alors, moi, ça me rappelle un truc, c'était un peu avant l'affaire de la vache folle. Vous savez, on avait des vaches qu'on avait nourries avec des protéines animales et qu'on contractait une maladie transmissible à l'homme. Ça doit vous rappeler des trucs. Et là, on disait, ben, en regardant la séquence d'une protéine, on ne peut pas savoir si elle est animale ou végétale. Donc, c'est pareil. Bon. Juste un petit rappel. Donc, dans ces deux cas-là, on est devant une réduction du produit considéré aux seuls paramètres qui sont pertinents pour le laboratoire, alors même que le produit a été mis dans la nature et dans la société, et donc que cette caractérisation du produit est plus du tout adéquate pour la réalité du devenir des produits. Et puis, bon, bah, le comité scientifique du Haut Conseil des biotechnologies, qui est les experts français, ils ont produit aussi un premier avis sur la question, et qui a d'ailleurs donné lieu à la démission d'un des experts, qui s'appelle Yves Berthaud. Il a démissionné parce qu'il a fait une position divergente, et le Haut Conseil a refusé de publier sa position divergente, donc je vous la donne. Position divergente d'Yves Berthaud, c'est de dire ce n'est pas parce qu'en un endroit ciblé, le résultat est similaire à celui d'un autre produit issu d'une autre technique que les deux produits sont assimilables ou identiques. C'est évident. Et ça, refus de publier cela dans l'expertise du HCB. Alors, je n'ai pas le temps de commenter. Vous avez là-bas la lettre qu'on a écrite à la Commission européenne à la suite de ça. Je vous en cite quand même un petit passage pour bien comprendre ce qui est nouveau et radicalement nouveau dans ces nouvelles biotechnologies. Lorsqu'on sélectionne des mutants spontanés comme il est fait traditionnellement en agriculture, on cherche une mutation donnant un caractère repérable, si possible souhaité, comme j'ai dit, la couleur ou la taille de la tige, peu importe. Les biotechnologies visent au contraire à obtenir telle modification à tel endroit du gène. En considérant même seulement un tout petit gène de 1000 paires de bases, la probabilité pour obtenir un changement d'une paire de bases donnée dans ce gène de manière naturelle, donc aléatoire, serait de l'ordre de 10 puissance moins 7 par génération. Si le changement donne un effet repérable, il faut donc disposer d'environ 10 millions de spécimens pour trouver celui qui a muté, ce qui est possible. Il faut en principe une seule culture de cellules pour obtenir ce, entre guillemets, même résultat. Vous voyez quand même qu'il y a une petite différence. Et si maintenant on veut, avec trois changements précis sur un gène précis, ça a été fait ça, sur le blé avec CRISPR-Cas9, il faudrait, dans les conditions naturelles, 10 puissance 21 spécimens pour avoir quelque chance que ça se produise. Et les puissances de 10 parlant peu en général, disons qu'à titre de comparaison, l'âge de l'univers mesuré en secondes est de l'ordre de 10 puissance 17. Voilà. Donc ça vous donne l'ordre de grandeur de la différence qu'il y a entre les techniques qui, selon les experts, sont identiques. Ils ont juste oublié le facteur temps. Négligeable. Et ce qui est marrant, c'est qu'en même temps, ils vous disent « Mais c'est complètement nouveau, c'est formidable, on va pouvoir faire des choses qu'on ne pouvait pas faire, totalement contradictoires. » Alors, le deuxième point qui est important, je vous le rappelle, c'était l'exclusion du public du débat d'experts. Eh bien, je vous cite simplement deux citations d'articles parus récemment, hein, de l'an dernier, de Virginie Tournay, qui est membre du comité scientifique du HCB et du comité scientifique de l'OPECST, qui est l'Office parlementaire des choix technologiques, et qui nous dit « L'idée que la délibération participative en contexte d'incertitude serait scientifiquement utile et constituerait forcément une plus-value démocratique repose sur des biais cognitifs. » Cette injonction participative pose en fait problème tant dans la recherche scientifique que dans le fonctionnement de nos démocraties. Bon, en gros, la démocratie se porte beaucoup mieux si le public ne s'en mêle pas, hein, quand même. Et vous avez un autre article canadien qui nous dit, après un titre qui dit « Est-ce que les controverses scientifiques appellent à une participation citoyenne ?» Point d'interrogation, on se demande quelle sera leur réponse, hein. Nous suggérons qu'une raison centrale en faveur de l'appel à la participation publique se situe dans la croyance qu'une telle participation est requise par la légitimité démocratique. Nous montrons ensuite que la plupart des principales conceptions de la légitimité démocratique n'impliquent pas en fait que la participation publique puisse être requise pour les controverses scientifiques en général et pour les OGM en particulier. Et je pense que vous allez voir fleurir dans la littérature ce genre de position et qu'on va organiser des débats tout à fait contradictoires et intéressants sur la place que le public pourrait avoir pour discuter de sa propre existence, parce que c'est quand même ce qui est en jeu. Est-ce que ce sont aux experts de décider de nos vies? C'est pas innocent comme question, vous voyez, c'était celle du titre de la conférence. Et je crois qu'on a vraiment, là, on est aux dernières limites pour réagir sur ces questions, c'est-à-dire ne pas s'enfermer à répondre techniquement à des agressions techniques, mais bien à reprendre les choses sur le plan fondamental, c'est-à-dire notre droit à la parole, notre droit à notre exercice démocratique. Et c'est vital. Si on ne le fait pas maintenant, je crois qu'on aura beaucoup de mal après à refaire surface. Donc là, j'ai été déjà très long, je suis désolé. On n'a fait que tout survoler. Et comment réagir? Eh bien, comment réagir? On va là aussi pouvoir donner que quelques petites pichenettes comme ça dans le problème. Mais pour nous, vraiment l'important, c'est de reprendre la parole et de nous situer dans les contextes qui nous intéressent et pas ceux qui sont imposés par l'industrie pour faire passer leurs produits. Donc, un de ces contextes, ben, il est pour nous vraiment très important. Il nous est donné par un article de la revue Nature qui s'intitule « À l'approche d'un basculement de l'état de la biosphère terrestre ». Alors, vous savez que les écosystèmes ne sont pas régis par des relations linéaires en général et qu'ils ont une carte particularité, c'est qu'il y a un seuil critique. C'est-à-dire que tout va bien jusqu'à un point. Une fois que ce point est dépassé, c'est trop tard. On ne revient plus en arrière. Et avant ce point, il y a en général des signes avant-coureurs qui disent attention, pour nous, attention, le système va s'effondrer. Et l'idée de Barnowski et collaborateurs, c'est de voir si ces signes existent au niveau général, c'est-à-dire au niveau de la biosphère. Est-ce qu'on est en train et à quelle échéance de se mettre en péril en tant qu'espèce. C'est quand même pas une question anodine. Hein. Et la réponse, c'est, ça c'est le résumé de l'article, qui est un article magnifique que je vous conseille. Les écosystèmes sont connus pour passer brusquement d'un état à l'autre quand ils sont poussés à développer, à dépasser un point critique, et ce de manière irréversible, ce que je viens de dire. Ici, nous rapportons les éléments, montrons que l'écosystème global comme un tout peut réagir de la même façon et approche actuellement une transition critique à l'échelle planétaire résultant des activités humaines. Ça, c'est le contexte dans lequel nous voulons situer le débat. Et c'est ce que nous disions tout à l'heure, la prolifération des changements apportés par les techniques, les biotechnologies, les nanotechnologies, l'informatique, etc., la rapidité et l'ampleur de ces changements impactent-elles l'organisation des systèmes qui nous concernent, c'est-à-dire les sociétés et la nature? Et si ces questions ne sont pas traitées, on n'a pas envie de parler de savoir comment le gène a été tricoté. On n'en a rien à secouer. Ce qui nous importe, ce sont des questions fondamentales, des questions vitales. Et après, une fois qu'on aura abordé ces questions, on peut éventuellement s'occuper d'autres choses, on n'a rien contre. Mais on ne peut pas exclure du débat ce qui est le plus important. Et puis, cette affaire-là nous donne aussi une possibilité fantastique. Ça veut dire qu'on est tous concernés, tous dans le même bateau, y compris Monsanto, les experts, les politiques, etc. Et ça, c'est une première dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire que pour la première fois de l'histoire de l'homme, eh bien, on est tous solidaires, qu'on le veuille ou non. Et finalement, notre enjeu, est-ce que c'est pas de faire comprendre ça à Monsanto, aux experts, etc., plutôt que d'essayer de les empêcher de vendre leurs produits? Ça n'empêche pas, remarquez. Mais c'est là que l'enjeu devient un peu différent et, à mon avis, prend toute sa valeur. Parce que, pour la première fois, et ça c'est un truc quand même fantastique, pour la première fois de l'histoire de l'homme, on n'a plus d'ennemis au niveau supérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'engueulera pas avec son voisin. Mais ça veut dire que, voilà, on a une solidarité obligatoire. Et en même temps, mais c'est un truc fantastique de potentialité, d'action et d'émerveillement aussi. C'est-à-dire que la perspective dans laquelle on est n'est pas quelque chose de dépressif, déprimant, mais c'est quelque chose, au contraire, extrêmement enthousiasmant, puisque on ne peut mettre en jeu ensemble ce qu'on a de meilleur que si on y est obligé. Or, on y est obligé. Alors, le deuxième point qui est important de comprendre dans l'impact de ces biotechnologies, c'est la dépendance qu'engendre la coévolution des sociétés et des techniques. Moi, cet ordinateur, je ne l'avais pas quand j'étais jeune. Et on vivait très bien sans. Alors on se dit, mais s'il n'y a plus d'ordinateur, eh bien on va retourner à l'état où j'étais très bien sans. Ben non, parce que la société s'est structurée avec, elle a abandonné des tas de possibilités et on ne revient pas en arrière. Donc il faut bien comprendre, faire attention, vous avez une dépendance de la société vis-à-vis des technologies qu'elle génère, et notamment aussi des biotechnologies. Et est-ce qu'il est vraiment intelligent de se rendre dépendant d'une technologie dont on sait qu'elle ne va pas pouvoir se maintenir? En effet, ça, j'ai fait suite une courbe théorique comme ça qui vous montre simplement l'allure exponentielle de l'évolution des techniques et des sciences et des techniques, des technosciences en fait, dans lequel le monde est à peu près égal à lui-même pendant très longtemps, puis brusquement, il part à l'infini. Eh bien, en très peu de temps, on change de monde. C'est ce qu'on est en train de vivre. On est vraiment dans un monde complètement nouveau. Et les critères, les références anciennes ne s'imposent plus comme étant valides. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir. Et puis, dans très très peu de temps, eh bien, on est à l'infini. Parce que, regardez, vous avancez un tout petit peu et vous êtes à l'infini. Tout petit peu, c'est-à-dire quelques années. Quelques années. Eh bien, c'est pas possible d'aller à l'infini dans un monde fini. C'est pas possible, tout simplement. Ce qui veut dire que ce qui produit cette évolution, il va s'arrêter. Et ce qu'on je disais tout à l'heure, dans ces conditions-là, rendre l'alimentation dépendante d'une technologie dont on sait qu'elle va s'arrêter, c'est juste suicidaire. Et vous voyez qu'on n'est plus du tout à la critique de savoir est-ce que le gène machin, non. Ce sont des choses qui sont beaucoup plus fondamentales. Et puis, cette croissance, pour encore enfoncer le clou, de type exponentiel, elle entraîne une consommation qui est elle-même croissante des ressources. Elle est croissante d'une manière exponentielle aussi. Et soit ces ressources, elles sont non renouvelables, comme les minerais, par exemple, soit elles ne sont pas suffisamment renouvelables, comme l'eau. Et là aussi, le système s'enraye. Et il faut bien comprendre que toutes les solutions alternatives qu'on veut développer et qui se basent, qui sont en fait conçues dans le même système de pensée, aboutissent au même résultat, c'est-à-dire regarder comme disait Barnowski, ce changement d'état du monde sans pouvoir rien y faire. Donc notre problème à nous, ça va être déjà de diminuer notre dépendance à un système qui s'achève, et non pas de réaliser des vieux rêves anciens qui datent d'un monde qui n'est plus le nôtre. Et puis, c'est enfin de préparer ensemble ce que nous avons appelé la métamorphose culturelle, c'est-à-dire une véritable réflexion sur les désirs et les a priori de la civilisation occidentale mondialisée qui s'achève, et ceci de manière à la déconstruire, et permettre l'émergence d'autres choses, et on ne parle plus, on ne sait pas encore de quoi. Donc ça, c'est pour nous, le GIET, notre grand thème depuis pas mal de temps, qui est la métamorphose culturelle. Et je vous invite à venir avec nous pour que ce monde retrouve une figure un peu plus sympathique que celle qui est montrée ici.
Avant tout, je voudrais remercier Frédéric parce qu'il a su vraiment très bien dire de façon crescendo, d'une façon progressive, ce qui nous motive, nous, à agir et qui est beaucoup plus, comme il l'a expliqué, que simplement couper des plants de génétiquement modifiés. Et donc, vraiment, c'est fondamental. C'est pour ces raisons existentielles, fondamentales, que nous fauchons. Voilà, je tenais à le dire.
Alors,
j'ai une question par rapport au... Je reviens sur les experts et le travail qui se fait au niveau des commissions. Tu as parlé beaucoup des experts, mais quid des comités éthiques ? Est-ce qu'ils existent ? Est-ce qu'ils existent encore ? Puisque la réflexion amène à une réflexion philosophique, mais est-ce que cette réflexion existe aussi au niveau des commissions ?
Alors, le problème éthique, on l'a bien compris, c'est un problème essentiel. Les comités d'éthique, j'y réponds tout de suite, ce sont des comités qui sont... Il y a une thèse qui a été faite qui a montré qu'ils vont toujours dans le sens de ce qu'on attend. Donc on va peut-être pas trop parler des comités d'éthique qui n'ont pas de... Là, en plus, la seule chose qui va les intéresser, c'est l'homme, quoi. C'est, est-ce qu'on peut modifier les cellules humaines, machin. Le reste, ils s'en foutent. Bon. Pour nous, le problème éthique, il est essentiel. Alors on avait monté, au niveau du Haut Conseil des biotechnologies, un groupe de travail sur l'éthique. L'idée, je vous la résume... L'idée, c'est de dire, bon, le fondement de l'éthique, vous avez l'être humain ancestral, il est tout nu là dans la savane, et s'il court devant un lion, il se fait bouffer très vite, parce qu'il ne sait pas courir, il n'est pas très costaud, il n'y voit rien, il n'a pas d'odorat, il est nul. Et la possibilité de survie, c'est de vivre en société. C'est sa seule chance. Alors, dans la mesure où l'individu nécessite la société est hiérarchiquement supérieure à lui. Et il y a une éthique générale qui va être conçue comme tout ce qui va permettre de mettre en harmonie le comportement individuel avec l'intérêt de la société. Il y a plusieurs types de sociétés, hein, puisque là, une famille, par exemple, qui est dans une tribu, etc., etc. Et c'est pas des trucs qui s'imbriquent, hein, ce sont des relations complexes entre les sociétés. Et bon, ben, tout l'objectif, entre guillemets, de l'éthique, toute la nature de l'éthique, ça va être de permettre cette vie sociale à l'individu. Et puis, s'il le comprend pas, s'il comprend pas cette, ce cadre éthique, eh bien, il y a une application qui en est faite par des règlements, des lois, même au niveau des tribus, vous avez des règlements, etc., qui vont obliger les gens à être civiques. Et puis, pour ceux qui comprennent encore pas, vous avez la religion, hein, qui va menacer de choses après la mort, c'est pratique. Et puis, ceux qui comprennent encore pas, ben, on les prend, on les découpe en petits bouts, quoi. Parce qu'encore une fois, il y a une hiérarchie des valeurs. Et donc on est dans une société qui jusqu'à présent, et depuis le début du temps, est à une éthique sociale. Et implicitement, eh bien, la nature a une résilience infinie. C'est-à-dire qu'on n'a pas à la prendre en compte. Elle va, si je fais une bêtise, la nature va réparer, c'est pas grave. Et puis arrive maintenant l'époque moderne. Et là, cette hypothèse-là ne tient plus. Elle n'est plus implicite et on la discute. Et on voit bien que non. Et on vient d'en voir un exemple avec l'article de Barnowski. La nature n'a pas une résilience infinie. Et par conséquent, l'intérêt général au-delà de la société, ça va être notre harmonisation à la fois de notre comportement individuel et de notre comportement social avec la nature. Et donc on a un changement de l'éthique générale qui est fondamentale. Et vous vous rendez compte ce que ça veut dire ? Au niveau de la conception de soi, puisqu'on a un soi qui a été conçu dans une éthique sociale, au niveau de la hiérarchie des valeurs, vous comprenez bien que dans une éthique qui prend en compte la résilience de la nature, vous n'allez pas nous dire « mais il faut protéger l'emploi, c'est supérieur à protéger le fonctionnement des milieux naturels ». Par exemple, hein, c'est juste... Bref, vous avez quoi ? Vous avez une métamorphose culturelle à faire. Et ce changement d'éthique, c'est une des bases, c'est justement de cette métamorphose culturelle sur laquelle nous travaillons et à laquelle nous vous invitons à participer. Ça n'a vraiment rien à voir avec les comités d'éthique.
J'ai juste une question. Comment, en tant que citoyen lambda, on peut réussir à avoir un avis éclairé et des arguments solides pour faire face à des experts ? J'ai un bagage en biologie moléculaire. Au final, ça me permet de comprendre toutes les limitations des systèmes et des méthodes utilisées que vous expliquez. Mais je n'aurais pas ce bagage-là. Des experts me diraient, on a des ciseaux moléculaires qui permettent de cibler. Il n'y a pas de souci, ça marche, c'est validé. Je ne me sentirais pas le poids de les contredire et de remettre en question tout. Et finalement, c'est une question globale sur tout sujet. Comment, sans bagage, on arrive à avoir un poids face à ces industriels et ces méthodes de...
Alors, c'est une excellente question, mais justement, peut-être parce qu'il faut changer le niveau du débat. Et si vous êtes citoyen et vous dites, mais attendez, le résultat de cette prodigieuse évolution technoscientifique, c'est la mise en péril de notre vie en tant qu'espèce. Est-ce que ce résultat-là justifie votre activité ? Non ? Eh bien, alors, on va peut-être en discuter. Ça ne veut pas dire on va vous pendre hein, non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas, encore une fois, un déni de la science ou quoi. Ça veut dire, bah, manifestement, il y a un problème majeur. Eh bien, on va en discuter parce que ça nous concerne. Et on va en discuter avec des termes qui sont les nôtres et pas ceux de votre spécialité. Parce qu'on n'y a pas accès. Donc, on va. Si vous voulez amener votre spécialité, il faudra le faire avec nos termes à nous. Encore une fois, l'enjeu maintenant, c'est de reprendre la parole avec des termes qui sont les nôtres et dans les contextes qui nous concernent, nous.
Du coup, je prends ce micro. J'ai une petite question justement relative à ça. C'est si on prend l'exemple d'un des gros arguments actuellement pour les OGM et la recherche en biologie moléculaire et la manipulation du vivant, c'est le réchauffement climatique. On nous dit on est déjà passé à l'époque, enfin à l'ère, on peut plus rien faire. De toute façon, le réchauffement climatique, ça va tout flinguer. Donc, il faut se hâter. Enfin, je ne sais plus qui disait il y a quelques mois. L'enjeu, c'est que les biotechnologies aillent plus vite que le réchauffement climatique pour pouvoir manipuler les plantes qui vont devenir résistantes aux conneries qu'on a fait avant, en gros. Et on est un peu pris en otage. Et même si on dépasse cette notion de discussion sur la technologie elle-même, on se retrouve quand même avec des experts en face qui vont nous dire « Oui, mais indépendamment de la techno, j'en ai d'accord, de toute façon, il faut anticiper les évolutions du monde qu'on a bêtement foutu en l'air. »
La réponse, elle est la même. C'est que moi, je vais répondre à ces experts, mais montrez-moi pourquoi... Le réchauffement climatique qui résulte de votre activité serait vaincu par la même activité augmentée. Si vous me montrez ça, on peut peut-être en discuter, mais ça m'étonnerait que vous puissiez y arriver. En tout cas, moi, j'ai des arguments contraires à ça. Hein ? Et qu'encore une fois, si tu veux, pourquoi est-ce que nous, on se focalise, c'est pas le bon terme, mais peu importe, sur la métamorphose culturelle, plutôt que sur des débats techniques. C'est parce que on nous dit, voilà, maintenant, il y a un certain nombre de problèmes comme ça. Problèmes, et puis encore une fois, on oublie que ces problèmes, ils sont générés justement par les mêmes méthodes qui ont fait que les méthodes qu'on nous propose. Si tu recherches une solution à un problème, eh bien, je vais faire une petite digression. On a fait un film qui s'appelle 2 plus 2 égale bleu. 2 plus 2 égale bleu, ça vient, j'ai repris une histoire de Gregory Bateson, qui est un auteur que j'aime bien. Et il dit, dans une classe, il y a un stit qui demande combien font 2 et 2. Alors il y a un élève qui dit, ça fait 9. là, c'est pas bien, hein, les bodes d'âne, tout ça au coin. Et son voisin, il dit, non, ça fait bleu. Alors là, c'est la panique totale. C'est la panique totale, c'est la camisole, c'est pas acceptable. Pourquoi ? Parce que la question donne les termes acceptables de la réponse, y compris les réponses erronées. Le problème, c'est pareil. Le problème va donner les termes acceptables d'une solution. Or, nous, ce qu'on va chercher, c'est sortir du paradigme dominant. Et donc, on ne va pas essayer de chercher des solutions à des problèmes. On va essayer de déconstruire ce qui génère le problème, ce qui est tout à fait différent. Et après, quelque chose émergera, c'est pas quoi, de l'activité humaine générale. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la démocratie réelle, parce que c'est une démocratie qui émerge de l'ensemble des activités humaines dans un nouveau contexte intellectuel, culturel. Hein ? C'est une démarche radicalement nouvelle. Et il faut arrêter de fonctionner. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter. Je veux dire, on va continuer à le faire. Mais la méthode problème-solution, question-réponse, ça va dans un monde stable, ça ne va plus dans le monde moderne.
Bonjour. Vous nous avez expliqué qu'aujourd'hui, on avait des techniques qui permettaient, en gros, à n'importe qui de pouvoir faire de la modification génétique dans son salon. C'est un peu caricatural, mais globalement, ça va vers ça. C'est faire de l'évaluation. Déjà, vous dites que c'est quasiment impossible par rapport à des grands groupes qui vont tout faire pour tricher, etc. Quand c'est des individus, des millions d'individus qui potentiellement peuvent faire n'importe quoi dans leur salon, l'évaluation, elle est non seulement impossible, mais ça va bien au-delà. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste sur des experts qui vont faire des choses qui, espérons-le, seront intelligentes. On va être sur des gens qui n'ont pas ce niveau d'expertise et qui vont certainement faire des choses pas intelligentes. Donc, comment on peut se prémunir ? Comment on peut changer la manière de faire pour tenir compte de cette réalité d'aujourd'hui.
Et puis vous oubliez une chose, c'est qu'il y a des gens qui ont l'intention de faire des choses stupides, ça s'appelle terrorisme. Il ne faut pas oublier que CRISPR-Cas9, ça a été classé comme arme de destruction massive par l'intelligence service américaine. Petite parenthèse d'ailleurs, cette classification a été déclassifiée par Trump. Mais ça a quand même été classé comme ça. Et c'est bien évident, quand vous avez quelque chose qui a ce potentiel et qui est ouvert à tous, vous êtes certain que ce sera mal utilisé. Et c'est bien pour ça que les problématiques classiques ne fonctionnent plus. On n'est plus dans ces problématiques-là. Il faut changer de niveau. Alors, je ne veux pas me répéter quand même, mais on n'aborde plus les problèmes de biotechnologie comme on les a abordés avec la transgénèse classique. C'est complètement autre chose. Il ne faut pas oublier, par exemple, que le petit coffret Do It Yourself, nous, on a interrogé le gouvernement pour savoir s'ils avaient le droit de le commercialiser en France. Et la réponse a été il ne contient pas d'OGM, donc il n'est pas réglementé.
J'ai une question un petit peu plus pragmatique. Ici.
Toujours toi.
On a toujours entendu, nous, les arguments que les OGM, c'était pour sauver l'humanité, nourrir l'humanité. Sylvain a parlé du changement climatique. Aujourd'hui, la transition, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux mondes qui sont en transition. La transition numérique augmentée, transhumaniste, qui nous préoccupe aussi indirectement, nous, les faucheurs. Et puis, cette résilience ou résistance à ce que ça change pas trop vite, ou en tout cas qu'on construise le monde que nous on a envie, un monde viable. Et je voulais savoir si toi tu sais si le monde scientifique ou médical s'intéresse à la question, puisqu'on nous formate un peu sur les géniaux résultats de CRISPR en médecine, et que ça fait avancer. Ça fait avancer leur wagon pour nous prouver que c'est une technique incontournable aujourd'hui pour nous sauver, nous, les hommes.
Mais encore une fois, une technique, ça n'arrive pas comme ça. Ça arrive dans un contexte culturel. Et ce contexte culturel, il va être partagé par la communauté. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'un expert ou un scientifique, je fais la différence, qui travaille dans le domaine des biotechnologies va non seulement accepter, mais va valoriser ces résultats-là. De même, moi j'avais des amis tout à fait honnêtes qui travaillaient dans le nucléaire et qui disaient, mais Tchernobyl, c'est pas un problème, quoi. Ça fait moins de deux morts qu'une journée d'accident de la route. Hein? Parce qu'on est quand même formaté par une formation. Actuellement, il y a quelque chose qui permet le rêve. Permet le rêve. On a déjà eu ça avec la transgénèse. Quand la transgénèse est arrivée, on allait pouvoir soigner tout, nourrir le monde, enfin bref, quoi. Évidemment, ça n'a pas réussi. Mais, encore une fois, la démarche scientifique et médicale, c'est pas rationnel du tout. On confond, si tu veux, un scientifique, quand il fait une expérience, son analyse de l'expérience est rationnelle. Enfin, de moins en moins d'ailleurs, mais enfin, en principe, elle doit l'être. Par contre, son attitude à lui, elle n'est pas rationnelle du tout. Ça qu'il faut comprendre. Et là, on crée une espèce de dynamique d'espoir qui va toujours dans le même sens, qui va dans le sens de cette technique, dans le sens de cette hyperbole dont je parlais, sans se rendre compte que cette hyperbole, elle nous mène à l'infini, ce qui est impossible. Donc, moi, quand on nous dit, par exemple, on va pouvoir soigner le cancer, je dis deux choses. Un, déjà, si vous aviez supprimé les pesticides, les désodorants et autres conneries, vous auriez moins de cancers. Ce serait peut-être mieux que d'essayer de les guérir après, parce qu'on a quand même fait exploser le nombre de cancers. Et puis, deux, vous ne pouvez pas justifier la mise en cause de l'espèce humaine sur Terre par n'importe quelle réussite technique. Quelque chose qui n'a pas de sens. Est-ce que je réponds à ta question ou pas ?
Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. En tout cas, moi, il y a un truc qui me plaît bien, c'est la solidarité obligatoire. Voilà. Alors je me dis, je suis solidaire avec Monsanto. Déjà, c'est dur. Hein. Mais comment je vais convaincre les chercheurs qu'ils sont persuadés qu'ils font juste un petit changement sur leur gène, qu'ils mettent en péril nos vies? Et ça, vraiment, tu vois, le raccourci, il est immense, quoi. Donc, eux, ils ne sont pas persuadés de ça quand on les rencontre.
Non, mais
j'ai une sacrée métamorphose culturelle à faire.
Ouais,
voilà.
c'est pas le cas par cas qui va poser problème. C'est pas le petit changement sur le gène. C'est ça qui est important. Parce que lui, le mec, il va s'occuper justement de son petit changement sur le gène. Ça lui prend tout son temps. Il en rêve la nuit et tout ça. Mais c'est de regarder la globalité de l'évolution technoscientifique. Et qu'on arrête avec le cas par cas. Hein? C'est-à-dire qu'on doit pouvoir discuter de l'ensemble. Encore une fois, la rapidité et le nombre de cette évolution technoscientifique pose problème en elle-même. Toute l'évaluation, c'est du cas par cas. Moi, pareil, au Conseil des biotechnologies, on avait eu des discussions extrêmement houleuses avec la présidente, Christine Noiville, parce que pour elle, le cas par cas, c'était sacro-saint. Il dit, mais tant qu'on reste au cas par cas, on ne pourra jamais discuter avec les autres. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas, le cas par cas. Non, mais que ça les arrange. Non seulement ça les arrange, mais ils sont formatés comme ça. Donc, encore une fois, ma première formation, c'est d'être médecin. J'ai fait science beaucoup plus tard. Et du coup, je me rends très bien compte que du formatage que j'ai, par exemple, sur les médecines alternatives, entre guillemets, eh bien, c'est quelque chose que je n'admets pas, même si intellectuellement, je me dis que je me trompe, ok. Mais c'est une réaction intellectuelle. Physiquement, dans mon corps à moi, ça passe pas, parce que c'est ma première formation, et c'est comme ça. Et pour un scientifique, c'est pareil. Et sa formation, il a une certaine vision du monde, et elle est physique. Moi, je leur en veux pas du tout. J'ai des amis experts qui sont pro-OGM. Hein, ils viennent à la maison, on dîne ensemble. Hein, je veux dire, il faut dépasser ces choses-là. C'est pas. Il faut comprendre la façon dont les choses se mettent en place.
Merci beaucoup, Frédéric, pour ce débat passionnant, cette conférence passionnante.